sa protection sur ses cœurs, sa bénédiction pour chacune de nos âmes, et que sa parole puisse trouver le chemin de nos consciences, si souvent assoupies, afin de les réveiller, et de parvenir aussi jusqu'à nos cœurs, afin que toute notre vie soit une expression de l'amour de Dieu versé dans nos cœurs. Encore une fois, Dieu notre Père, nous élevons les yeux vers toi, car nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons aucune force, aucune puissance, et c'est pourquoi nous nous attendons éperdument à ton secours, au secours de ta grâce. Et nous voulons mettre notre confiance en toutes tes promesses. Toi qui nous dis dans ta parole, ne rejetez pas loin votre confiance qui a une très grande récompense. Car celui qui vient, viendra et ne tardera pas. Nous te demandons ton secours et nous te prions que cette soirée soit déterminante pour plusieurs vies, elle est marque, afin que un témoignage nouveau te soit rendu dans ce monde où nous nous trouvons encore. Nous te bénissons parce que nous savons que déjà tu nous as exaucés en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, mes bien-aimés, à ouvrir vos Bibles une fois encore au chapitre 3 du livre de Ruth. Nous continuons donc le grand sujet sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu. C'est un texte du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est le verset 3e. Et ce texte, nous cherchons à l'éclairer par la lecture de ce livre de Ruth. Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parents, voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but.
et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et il dit, « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, ou littéralement, c'est bien, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Eh bien, mes amis, je voudrais que vous notiez pour vous-même quelque chose qui vous frappe dans ce chapitre, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous concerne, quelque chose dont vous pouvez vous emparer. Il y a des perles dans ce chapitre. Il y a des merveilles que vous devez découvrir. Et je voudrais que ce ne soit pas simplement la lecture de cette histoire qui nous étonne un peu, ce conseil d'une belle-mère à Ruth, est-ce que ce n'était pas la placer dans une situation extrêmement dangereuse? Enfin, si vous avez pris garde aux paroles que prononçait Naomi lorsqu'elle était encore à Moab, vous vous rappellerez qu'il y avait beaucoup d'affection, beaucoup d'amour dans le cœur de Naomi pour ses 2 belles filles,
aussi bien Orpa que Ruth, mais ce qu'elle disait à ces deux jeunes femmes, c'était qu'elles devaient retourner chez leur mère, rester dans ce pays de Moab et s'y marier, parce que Naomi pensait que pour être heureuse, ces jeunes femmes devaient être mariées. Elles étaient trop jeunes pour rester veuves. Elles ne voyaient pas d'autre solution pour leur bonheur que d'avoir un mari. Vous lisez cela dans le chapitre 1er que je vous cite au verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Elle aurait voulu, Naomi, que ses belles filles trouvent du repos dans le pays de Moab et dans la maison d'un mari qui serait certainement un Moabite. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Il y avait donc de l'amour, mais le langage de Naomi est un peu étonnant. Mais pourquoi? Ben parce que elle vit depuis plus de 10 ans dans le pays de Moab et elle s'est habituée aux mœurs de Moab et elle a un peu oublié la terre d'Israël et ce qui était les principes divins dans le pays où elle avait habité et où elle voulait maintenant retourner. Maintenant qu'elle est de nouveau en Israël, la voilà qui parle autrement. Elle a toujours la pensée de pouvoir donner du repos à Ruth, mais jusque-là, elle avait cru que c'était impossible que Ruth ait du repos en Israël. Et puis se marier en Israël, c'était une impossibilité pour elle. Elle était incrédule, elle n'avait plus cette foi première. Et pourtant, elle avait parlé de son Dieu à ses belles-filles. Mais elle avait subi cette atmosphère, comme nous aussi nous subissons. Aujourd'hui, l'atmosphère du monde, on ne croit pas à la possibilité d'un bonheur durable. Et alors voilà que la première journée où ils ont habité à Bethléem, Naomi s'aperçoit que Ruth a été bien reçue, contrairement à tout ce qu'elle avait prévu. Voyez-vous, quand on est dans l'épreuve, on ne voit plus les choses d'une façon saine et on commence à douter. Bien, quand vous doutez, soyez persuadés que c'est Satan qui vous environne, qui vous enveloppe, qui cherche à vous faire croire que c'est fini pour vous, qu'il n'y a plus d'issue, ce n'est pas possible. Et Satan est derrière toutes les dépressions nerveuses. Croyez-vous. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez déprimés. Le Seigneur veut, par sa parole, vous restaurer, vous fortifier, vous convaincre qu'il y a une issue, qu'il y a une possibilité, même si vous avez manqué, si vous êtes dans une situation qui est celle, au fond, d'une désobéissance. Le Seigneur est capable de vous restaurer, comme il a restauré David, qui, nous l'avons vu ce matin, était tombé dans une faute extrêmement grave. Pas seulement une. Il a commencé par la convoitise, par l'adultère, qu'il a continué, et puis ensuite, qu'a-t-il fait? Il a voulu camoufler tout cela en faisant revenir le mari de Bathsheba,
avec laquelle il avait couché et qui était devenue enceinte, pour qu'on puisse croire que Bathsheba était vraiment enceinte de son mari. Mais ses plans ont échoué complètement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais le pauvre David, pour s'en sortir, il a écrit une lettre par laquelle, au fond, il tuait le mari de Bathsheba. Et ensuite, quand il apprend que c'est fait, qu'Uri est mort, l'obstacle est enlevé, Uri est mort, que va-t-il faire? Oh, le bon roi David, il va épouser une veuve. C'est merveilleux, les compassions de David pour cette veuve. Mais voilà, ce qu'il avait fait avait été observé d'en haut, vu de Dieu. Un prophète vient lui parler et il lui raconte cette petite parabole que vous trouvez dans le chapitre 12 du deuxième livre de Samuel. Il y avait un voyageur qui était venu chez un homme pauvre qui n'avait qu'une petite brebis et cet homme ce voyageur, eh bien, avait demandé qu'on le nourrisse et on avait tué la petite brebis pour le nourrir. Et David avait dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et le prophète se tourne vers lui et lui dit, tu es cet homme. Cet homme. Il avait prononcé sa propre condamnation. Et alors, c'est là ce que je vous disais ce matin, David s'est humilié et il a composé le psaume 51 qui a été le moyen de la conversion d'une multitude de personnes. De sorte que la faute de David a été le moyen, au fond, du salut de plusieurs personnes qui ont pu prier en confessant leurs fautes et retrouver la joie de leur salut, comme David le demandait en moi, la joie de ton salut. Maintenant que Naomi s'aperçoit, après la journée de travail de Ruth, que Ruth a été bénie, que tout s'est passé tout autrement qu'elle-même l'avait pensé, Ruth lui avait demandé la permission d'aller travailler, elle y est allée, et elle y est allée dans l'espérance que quelque chose allait se passer pour elle, comme nous le disions tout à l'heure aux enfants. Sa foi a été remplie d'une espérance qu'elle pourrait trouver peut-être quelqu'un qui l'accepterait dans son champ. Et cela est arrivé. Et comme nous l'ajoutions aussi, à cette espérance allait se joindre l'amour. Elle allait connaître l'amour et le grand amour. Et quand Ruth a raconté à sa belle-mère tout ce qui s'était passé, eh bien ça a fait réfléchir la belle-mère. Elle a commencé de changer d'idée. Elle a commencé de changer de pensée. Jusque-là, quand elle était rentrée à Bethléem, qu'est-ce qu'elle disait? Ne m'appelez plus Naomi, mais Élise, appelez-moi Mara. Elle était amère. Elle disait, Dieu m'a affligée, Dieu m'a éprouvée, Dieu est contre moi, il a été contre moi. Elle ne voyait que cela. Et puis, quand elle a entendu et qu'elle a vu en Ruth ce visage épanoui, qui lui disait, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Boaz, et il m'a parlé avec amour. Il ne m'a pas traité de sale étrangère, de Moabite. Il m'a appelé tout de suite ma fille. Et voilà, et elle a entendu une succession de bénédictions que Ruth a reçues par ce beau. Et pour Naomi, d'entendre le nom de Boaz, elle se souvient, mais c'était le parent de mon mari. Elle l'avait peut-être oublié. Et puis tout à coup, elle se souvient qu'elle a un parent qui est un homme puissant et riche à Bethléem. Mais on ne l'a pas consulté lors de la famine. On est parti, on a vendu tout, on s'est appauvri au fond, et on est parti. Puis maintenant qu'elle est là, et qu'elle entend que Dieu a permis que sa belle-fille trouve un homme pareil, tout à coup, il y a des lois d'Israël qui lui reviennent, et elle pense à cette loi qui permettait à un homme de racheter les terres qui avaient été vendues. Mais que le rachat de ces terres devait aussi être le rachat de la veuve. Et tout cela, je vous en ai déjà parlé, et on a fait des lectures. Et c'est cela que Ruth va connaître. Sa belle-mère change d'opinion et elle ne dit plus que Dieu est contre elle, mais au verset 20 du chapitre 2, elle a dit « Qu'il soit béni de l'Éternel ». Elle parle de Boaz, qui a montré, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Elle se souvient que Dieu a été miséricordieux pour eux. Ce n'est pas simplement la colère de Dieu qui s'est manifestée par leur mort. Elle se souvient qu'il y a eu miséricorde pour eux. Et puis, elle ajoute, cet homme est notre parent. Lui encore, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Elle lui révèle que cet homme qu'elle a rencontré, qui est un proche parent, a le droit de rachat, peut racheter la terre que son mari Elimelech a vendue, et que non seulement il a le droit de rachat, mais que s'il rachète, il doit prendre comme femme la veuve. Alors vous voyez, les sentiments de Naomi maintenant ont changé même vis-à-vis de Dieu. Elle est de nouveau dans le lieu où elle peut être bénie et où sa foi connaît un regain d'activité. Alors, on arrive au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, elle a réfléchi là-dessus. « Ma fille, je voudrais assurer ton repos. » Ce qu'elle lui avait dit au pays de Moab, elle voulait aussi son repos, mais ça n'aurait pas été le repos d'épouser des Moabites. Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureux. Elle ne pense plus à elle-même, elle ne pense plus à ses épreuves personnelles, elle pense à cette Ruth qui a tout quitté, son père, sa mère, son pays, et qui a voulu la suivre pour connaître le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et elle remarque que cette Ruth est bénie. Ses actes de foi, eh bien, sont vraiment positifs puisqu'elle a rencontré ce Boaz qui lui est tellement favorable et elle a senti une affection, une reconnaissance immense dans le cœur de sa belle-vie pour cet homme qui s'appelle Boaz, en lui est la force. Alors, maintenant vous allez comprendre verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu avais été, parce que, justement, les moissons vont se terminer, et puis elle risque de ne plus avoir d'emploi. C'est pour ça qu'elle parle de ses servantes avec lesquelles elle a été. Mais bon, c'est notre parent. Elle lui souligne cela. Voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Et je pense que vous vous souvenez de ce qu'est un vent, je l'ai dit simplement aux enfants, c'est un instrument d'osier en forme de coquille pour agiter le grain et en chasser les poussières ou l'enveloppe. L'enveloppe qui entoure le grain et qu'on appelle la balle. La balle, c'est l'enveloppe du grain dans un épi. Ça a la même forme que le grain, n'est-ce pas? Mais c'est vide. C'est vide. Et alors, on vanne, on enlève cette enveloppe dans une dernière séance à la fin de la moisson. Et le propriétaire, qui n'a peut-être pas semé lui-même, qui n'a peut-être pas moissonné lui-même, puisqu'il a des ouvriers, mais il est là pour la vanne. Et cette vanne se fait dans l'air. Et vous savez ce que c'est l'air, c'est pas E grave R-E. L'air, c'est le lieu où l'on bat le grain. Tout se passe là, où l'on bat le grain. Alors, on le fait le soir, parce que le vent en Orient souffle le soir. Vous vous souvenez, dans la Genèse déjà, au chapitre 3, l'Éternel se promenait dans le jardin au temps du soir, hein, au souffle du soir. Et le vent chasse la balle, comme il est dit dans le psaume premier. Et la balle, c'est toujours une image d'un croyant, enfin d'un soi-disant croyant, mais qui ne l'est pas vraiment. Il a la forme religieuse, mais il n'a rien à l'intérieur. Et il y a beaucoup de croyants ou de gens qui se disent croyants et qui ne sont que la balle. Alors, est-ce que nous, ici, nous nous réclamons du Seigneur? Est-ce que nous sommes, est-ce que nous avons seulement la forme de la piété, comme il en est parlé dans l'Épître à Timothée, ou est-ce que nous en avons la puissance de la piété, la réalité, ou bien est-ce que nous avons que des formes? Est-ce que nous sommes la balle que le vent chasse, ou bien est-ce que nous sommes vraiment le grain, une semence vivante? Et voyez-vous, Jean-Baptiste, je le rappelais aussi ce soir, annonçant Jésus et qui baptiserait du Saint-Esprit, il disait, il vient et il a son vent dans sa main. Hein, et il nettoiera entièrement son air, vous l'approuvez l'air, hein, A-I-R-E. Il retrouvera, il nettoiera entièrement son air. Qui est-ce qui fera ce travail? C'est le Seigneur lui-même. Et je vous ai dit hier soir que Bose est une figure, un type du Seigneur lui-même, le seul qui pouvait racheter l'humanité perdue, qui pouvait nous racheter. Notre divin Bose à nous, c'est qui? C'est Jésus. Lui a le droit de rachat. Personne ne peut racheter son frère, hein, ni payer sa rançon. Mais Jésus, lui, est venu. Et avec quoi nous a-t-il racheté? Avec de l'or ou de l'argent? Non, avec son précieux sang. Le sang de Christ, qui est la vie, eh bien, nous a racheté. Il a donné sa vie pour nous racheter, de sorte que nous avons en lui un plein salut. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que nous pouvons saisir de ce chapitre. Maintenant, Bose, avec les servantes desquelles il avait été, n'est-il pas notre parent? Elle annonce qu'il est proche. Voici, il doit vanner cette nuit les orges dans son air. Et alors, elle donne cet ordre à sa belle-fille. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Est-ce que ça vous dit quelque chose à vous? Quelle est la pensée de Ruth?
pour trouver un mari. Ou quelle émission écouterez-vous?
Claudine Barre avec Daniel Parent.
Vous donnerez votre commande pour avoir un mari? Vous direz, je pèse tant, je suis grassette ou je suis maigre, j'ai les yeux verts. Des trucs comme ça. Puis on vous donnera un numéro de téléphone. Si vous prendrez des rendez-vous.
Mais non, vous n'allez pas faire ça.
Vous allez faire mieux. Vous irez dans une discothèque. Et là, vous espérez trouver quelqu'un. Hein? C'est ça? Parce que si vous y allez, je sais très bien que vous mettrez vos plus beaux atours, hein, vos beaux habits, et puis que vous aurez pris un bain ou une douche. Ah bon? Et puis que vous vous serez parfumé. Vous aurez passé du temps devant votre miroir, hein, pour vous attiffer, pour plaire, pour essayer de séduire. Ah, c'est ça, hein. Va, l'alpha. C'est ça la parole. Creusez un peu et vous y trouverez quelque chose d'actuel. Va dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il y a Bose. Il y a Bose, il y a le Seigneur. Et vous y trouverez le Seigneur. Est-ce que vous voulez aller dans l'air cette nuit, dans la nuit? Ou bien est-ce que vous irez dans une boîte quelconque en espérant, en faisant même une prière pour que vous rencontriez l'homme de votre cœur? Et alors, tout ce que vous faites pour votre visage ou pour votre corps tout entier et puis vos habits, votre mode, c'est pour plaire, c'est pour séduire, ou bien c'est pour le Seigneur? Vous pouvez vous laver pour le Seigneur. Vous pouvez vous parfumer pour le Seigneur. Tout cela a un sens spirituel que vous devez découvrir dans la prière. Vous dites au Seigneur, mais montre-moi, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Parce qu'il est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre et pour nous corriger, pour que nous soyons parfaitement propres pour toute bonne œuvre. De sorte que, au lieu de penser du mal de Naomi, vous penserez toute autre chose. Elle a donné de bons conseils. Car, qu'est-ce que c'est se laver? Par quoi est-ce qu'on se lave? Selon l'Écriture. Le lavage d'eau par la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes lavé. Ça vous lave, ça me lave dans mes pensées. Mais si je lis certains bouquins, plus ou moins pornographiques, que voulez-vous que je pense? Je pense à ça. Comme cet homme qui, on lui demandait à quoi vous pensez, ben je pense à ça, il pensait qu'à ça. Bon, ben, il se nourrissait de quoi? Alors on ne pense qu'à ça, qu'à la chose. Voyez-vous mes amis, nous les pirouilles, on peut tout lire, on peut tout voir, tous les films possibles, puis vous vous imprégnez tout ça. Puis alors forcément, ben, la chute est, on n'est pas des reins. Souvenez-vous de Joseph. Joseph s'est bien vu, et il a bien vu qu'il ne pouvait pas résister lui-même avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, quitte à y laisser son manteau. Elle s'est accusée, mais il a dit, comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Il n'y avait pas encore la loi prononcée par Moïse, mais il savait déjà qu'on ne faisait pas les choses comme cela. C'est fantastique. Alors lave-toi, oins-toi. Oh, vous êtes la bonne odeur de Christ pour Dieu. C'est une odeur de vie ou une odeur de mort? Puis mets tes habits. Vous n'allez pas toute nue. Mets tes habits. Or, la plupart du temps, on s'active de manière à ce que une personne soit séduite. Mais des habits. Les habits dans l'écriture, ce sont nos habitudes. Eh bien oui, de quoi devons-nous être vêtus?
Ne prenez pas soin de la chair, mais revêtez-vous de Christ. Ayant revêtu Christ. Et puis, elle va donc dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Alors on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose là qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que Jésus disait au sujet de sa nourriture? Quand on est venu lui dire au chapitre 4 de Jean, vous savez que ses disciples lui ont apporté de la nourriture et ils lui ont dit, Seigneur, mange, quand il avait parlé à la femme samaritaine. Hein. Puis qu'est-ce qu'il a répondu? Moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était quoi sa nourriture? Faire la volonté de son Père. Et puis, quelle était la volonté de son Père? La volonté de son Père, c'était qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et il avait hâte de pouvoir donner sa vie. Alors, il ne fallait pas que Ruth se fasse connaître avant que Boaz ait mangé et bu. Et qu'est-ce que vous lisez dans un chapitre des Hébreux, au chapitre 12? Qu'à cause de la joie qui était devant lui, Jésus a méprisé la honte et a souffert la croix. Il ne fallait pas qu'elle se fasse connaître avant qu'il ait mangé et bu. Et une fois qu'il avait mangé et bu, il était joyeux. Joyeux. Jésus était joyeux à l'avance en pensant à quoi? Au fruit de son sacrifice. Quand on voit vraiment en Boaz le Seigneur Jésus. Alors, quand il a eu mangé, et manger, c'était faire la volonté de son Père, et la volonté de son Père, c'était qu'il donne sa vie, il a donné sa vie. Et ensuite, il est dit, quand il sera couché, observe le lieu où il se couche. Qu'est-ce qui est arrivé après la mort de Christ? On a mis le Seigneur où? Dans un tombeau. Et ce fut la nuit. Ce fut la nuit. On l'a mis dans le tombeau. Puis ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Qu'est-ce que nous apprenons dans les épîtres de Paul? Que non seulement Jésus est mort, mais et a été enseveli, mais que nous, nous sommes morts aussi. Et que nous sommes ensevelis avec lui. Et cette pensée de se coucher à ses pieds, là où Boaz sera couché, c'est notre identification au Christ dans sa mort. Et nous avons cela dans le baptême. En étant baptisés, nous sommes baptisés avec lui dans sa mort. Identifiés à lui dans sa mort. Et puis, se découvre ses pieds, eh bien, c'était une manière de montrer qu'on est un avec le Seigneur. Elle soulevait cette couverture et elle manifestait, quand il se réveillerait, qu'elle était une avec lui. Alors, elle dit, elle entend encore Naomi lui dire, « Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Naomi n'y en a pas dit plus. Mais vous voyez la soumission de cette jeune femme à sa belle-mère qui a toute une expérience et elle sait qu'elle lui veut du bien. Elle lui répondit, verset 5, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Donc elle croit les paroles de sa belle-mère, elle fait confiance aux paroles qu'elle lui a dites et elle descendit à l'air. Et elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. C'est une question d'obéissance. Boaz mangea et but, son cœur était joyeux, comme Jésus a été joyeux à l'avance au sujet des résultats de sa mort. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement et découvrit ses pieds et se coucha. C'est à ses pieds. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, qui es-tu? Là, nous revenons à Boaz lui-même. Hein? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et elle fait sa demande. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Et c'était bien ce que Naomi avait pensé. Boaz n'aurait jamais demandé Ruth en mariage, parce qu'il était un homme déjà âgé. Alors, il fallait qu'il sache que Ruth était disposée à l'épouser. Parce que s'il rachetait les terres, il prenait Ruth comme femme. Alors il lui dit, vous voyez qu'il lui dit quelque chose de très beau, « Sois béni de l'Éternel, ma fille. » Il l'appelle comme au jour où il l'a vu travailler. Ce dernier témoignage, ce dernier trait, témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Quel avait été le premier? Il avait entendu dire tout ce que Ruth avait fait pour sa belle-mère et son premier mari. Et qu'elle avait quitté les siens pour que Naomi ne soit pas seule. Et puis maintenant, il comprend que ce qu'elle veut faire, Ruth, c'est qu'elle consent de l'épouser pour que sa belle-mère soit hors de tout souci. N'est-ce pas merveilleux? Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Elle aurait pu se marier avec les jeunes gens qui étaient là chez les moissonneurs. Alors il dit, maintenant ma fille, ne crains point, car je ferai pour toi tout ce que tu diras. Vous ne trouvez pas que c'est un verset que vous deviez prendre pour vous? Il faut oser. Et Ruth a osé. Et quelle a été la réponse? Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Mais nous ne demandons pas, nous demandons mal, nous ne croyons pas, nous n'allons pas au Seigneur. Nous cherchons tous les moyens pour nous délivrer, pour nous sauver de certaines situations. Puis au dernier moment, alors, nous nous mettons en prière parce qu'il n'y a plus rien à faire. Alors que nous pourrions aller tout de suite au Seigneur. Et il est capable de nous délivrer, il est capable d'agir immédiatement. Je vous disais, je crois, ce matin, cette femme à Londres qui disait, mais j'ose presque plus prier parce qu'il m'exauce tellement vite. Alors elle n'avait que des actions de grâce. Est-ce que nous sommes des gens exaucés en 1994? Est-ce que nous pouvons parler de délivrance? Vous pourrez en parler si vous avez pu confesser le péché, l'incrédulité qui est dans votre cœur et dire, « Le Seigneur, maintenant je vais croire, je crois ce que tu me dis. Et je t'aime. » Je trouve que c'est tellement beau. Notez cela. Hein. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et ce matin, je voulais le relire ce soir, mais vous le relirez vous-même. Qu'est-ce que c'est que la femme vertueuse? Relisez le chapitre 31 des Proverbes. La femme vertueuse. Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il ne l'a pas pris pour une séductrice. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Alors nous le verrons demain, qui est cet autre. Passe ici la nuit et demain, s'il tient, s'il veut user envers toi du droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Donc, Boaz est soumis, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs jusqu'à, hein, jusqu'au soir, jusqu'à Bethléem, jusqu'au matin. Elle resta couchée jusqu'au matin. Bien, voyez-vous, c'est ce que nous devrions faire. Rester dans la mort du Christ. Rester avec lui dans sa mort. Parce que c'est là notre seule délivrance. Mais si nous voulons nous-mêmes nous délivrer, nous ne faisons que nous enfoncer davantage dans toute espèce de trouble. Il nous faut rester couché avec le Christ, couché jusqu'au matin. Mais vous voyez, c'est une pureté complète. Et ça vous fait penser à quoi? Rester couché à ses pieds, rester à ses pieds. Qui est-ce qui restait à ses pieds? Marie. Mais si vous faites cela, vous serez critiqué. Il y aura bien une marque pour ne pas vous comprendre et pour vous faire des reproches. Restez aux pieds du Seigneur. Non, ça ne convient pas. Il faut faire quelque chose, il faut agir. On vous parle de l'évangélisation explosive aujourd'hui. Eh bien, tout cela, c'est humain, mais restez couché à ses pieds jusqu'au matin. Quelle chose merveilleuse. Elle reste couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air parce qu'il ne veut pas qu'on médise, qu'on critique ou qu'on pense des choses qui ne se sont pas passées. Parce qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il s'est tout passé. L'assurance qu'il ferait pour elle tout ce qu'elle demandait. Et il ajouta, je trouve ça c'est tellement beau, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Hein. Alors vous la voyez, elle est habillée et tout, elle prend son manteau, elle le tient et il verse 6 mesures d'orge. Elle va rentrer chez sa belle-mère avec 6 mesures d'orge alors qu'elle n'a plus glané, il n'y a plus de glane. Hein. On ne glane plus, et pourtant elle ne rentre pas les mains vides. Mais quand on a été avec le Seigneur, on revient enrichi. Et si c'est faux ce que je vous dis, alors je suis un menteur, et je demande au Seigneur de me retrancher. Je témoigne que c'est vrai, qu'on ne peut pas être avec le Seigneur sans recevoir la bénédiction. On n'est pas malheureux avec le Seigneur. On a des épreuves. Mais au lieu de se déprimer, on lui dit, Seigneur, comment vas-tu t'y prendre pour me délivrer? Et on s'attend à une délivrance. Et vous savez, il n'est jamais en retard. Je n'ai jamais vu mon Seigneur en retard. C'est toujours à l'heure. Mais il faut attendre des fois le dernier quart d'heure. Et c'est ça qui est le plus difficile. Attendre le dernier quart d'heure. Mais il sera là. Et il lui donne 6 mesures. On s'est demandé pourquoi il n'y en a pas donné 7. Mais parce qu'il fait son œuvre progressivement. Il lui donne pour une semaine, pour les jours ouvrables, 1 mesure par jour. C'est ce qui est suffisant. Et la 7e mesure, quand est-ce que Ruth l'aura? Quand elle aura ce mari, hein. Ça sera ça la 7e mesure. La plénitude, elle va la connaître. Mais le Seigneur ne bouscule rien. Alors, Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi lui dit, est-ce toi ma fille? Parce que quand on a été avec le Seigneur, on est méconnaissable. Est-ce que c'est toi ma fille? Quand Moïse avait parlé au Seigneur, son visage rayonnait. Elle revenait certainement rayonnante. Et Ruth raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Donc, elle voit que son parent proche, Boaz, a pensé à elle et a employé Ruth pour lui apporter ce cadeau. Et Naomi dit, maintenant sois tranquille ma fille, jusqu'à, voilà encore un jusqu'à, que tu saches comment finira la chose. Il faut rester dans la paix. Vous pouvez être sûr que le Seigneur répondra. Quand ? Dans un mois ? Cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. C'est un verset qui est dans mon cœur. Quand on a remis les choses entre les mains du Seigneur, on attend dans la paix. On reste tranquille, on ne s'énerve pas, on ne s'excite pas, on donne déjà honneur, gloire et louange au Seigneur. Et demain, si Dieu le permet, demain matin et demain soir, nous terminerons par le dernier chapitre de ce merveilleux livre de Ruth. Restons dans la prière.